Bonjour et bienvenue dans le Jardin des mots, notre émission du quatrième jeudi de chaque mois pour parler de livres, de rencontres, de partages. Alors aujourd'hui, vous vous rappelez, on a traversé un petit peu tout le chemin du livre. On est passé auteur, éditeur, libraire, etc. Et aujourd'hui, je vous emmène dans une découverte dangereuse, très très dangereuse. Parce que Catherine, elle s'appelle Catherine Chavanel et non pas Catherine Machiavel. Mais tout de même, les femmes qui lisent sont dangereuses, sont très dangereuses. Et ça, on le sait depuis le superbe livre de Laure Adler et Stéphane Bollmann aux éditions de Flammarion, tout bêtement. Voilà, donc Catherine Chavanel, bonjour.
Bonjour, Christiane Belleuil.
Et c'est une chose étonnante que de se retrouver comme ça face à face, simplement parce que vous êtes une lectrice peut-être un petit peu particulière, une lectrice qui va se présenter toute seule comme une grande. Et puis nous allons essayer de voir ce qu'est une lectrice aujourd'hui. Et puis qu'est-ce qui fait que la lecture absorbe comme ça une personnalité aussi forte et farouche que la vôtre. Pendant des années, la femme, c'était on s'occupe des enfants, on fait la cuisine, on coud, on brode, on prie, voyez-vous ça. Et puis un beau jour, on a découvert la lecture. Et alors, comment avez-vous découvert la lecture?
Eh bien, c'est un peu difficile à dire. Je pense que j'ai toujours lu, à vrai dire. J'avais une maman qui me disait que à partir de 4 ou 5 ans, je commençais à déchiffrer et j'étais toujours à l'affût de l'objet livre qui me plaisait énormément, manifestement. Et je peux dire que j'ai le sentiment d'avoir lu depuis ma naissance. J'ai beaucoup vagabondé dans ces lectures. J'ai beaucoup découvert et ça a rempli ma vie, ça a accompagné mes blessures, mais ça a aussi accompagné de grandes joies et de grands bonheurs. Et c'est vraiment un privilège d'être là en tant que lectrice. Et bon, alors je ne sais pas si je suis une femme dangereuse, mais une lectrice, certes, je le suis.
Dangereuse peut-être aussi.
Et farouche peut-être aussi, l'avez-vous dit.
Et farouche, oui, mais ça, c'est la personnalité. Ça se voit bien tout de suite. Alors, Catherine, vous êtes construite autour de la lecture. Et avant d'aborder les livres qui vraiment ont fait date dans votre vie, moi, j'ai envie de lire un petit passage des Noces de Camus qui, si j'ai bien compris, est quand même un ouvrage marquant et significatif dans votre vie. Donc, c'est un extrait de Noces. Au printemps, Tipaza est habitée par les dieux, et les dieux parlent dans le soleil et l'odeur des absinthes. La mer cuirassée d'argent, le ciel bleu et cru, les ruines couvertes de fleurs et de lumière, à gros bouillons dans les amas de pierre. À certaines heures, la campagne est noire de soleil. Les yeux tentent vainement de saisir autre chose que des gouttes de lumière et de couleur qui tremblent au bord des cils. L'odeur volumineuse des plantes aromatiques racle la gorge et suffoque dans la chaleur énorme. À peine, au fond du paysage, puis-je voir la masse noire de chenoailles qui prend racine dans les collines tout autour du village et s'ébranle d'un rythme sûr et pesant pour aller s'accroupir dans la mer. Nous arrivons par le village qui s'ouvre déjà sur la baie. Nous entrons dans un monde jaune et bleu où nous accueille le soupir odorant et âcre de la terre d'été en Algérie. Partout, les bougainvilliers rosades dépassent les murs des villas. Dans les jardins, les hibiscus, eau rouge encore pâle, une profusion de roseté épaisse comme de la crème et de délicates bordures le long des iris bleus. Voilà pour commencer. Donc Camus, une personnalité peut-être marquante plus que les autres ou...
Oui, absolument beaucoup plus que les autres, certainement. J'ai découvert Camus, je devais avoir 15 ans, 16 ans peut-être. C'est un âge un peu difficile pour lire Camus. Je n'y ai pas compris grand-chose, à vrai dire. Et j'ai eu la chance d'habiter en Algérie bien après l'indépendance. Et je suis allée à Tipaza, après avoir lu Noces à Tipaza. Et j'ai retrouvé à Tipaza, au bord de la mer, sous cette chaleur complètement accablante, toutes les couleurs, toutes les sensations que ce texte m'avait procurées sans même connaître le site. Et je dois dire que ce texte de Tipaza, vous le lisez, il me bouleverse toujours autant. Ses couleurs, cet amour de la vie, de la nature, de la nudité, c'est pour moi l'expression de la sensualité, du désir et du plaisir. Donc c'est un texte, je crois que c'est mon texte préféré. De toutes les lectures que j'ai pu faire, Nos à Tipaza est pour moi vraiment le summum du bonheur et représente vraiment ce qu'est pour moi l'homme. Voilà.
Nous marchons à la rencontre de l'amour et du désir. Que d'heures passées à écraser les absinthes, à caresser les ruines, à tenter d'accorder sa respiration au soupir tumultueux du monde. Enfoncé parmi les odeurs sauvages et les concerts d'insectes somnolents, j'ouvre les yeux et mon cœur a la grandeur insoutenable de ce ciel gorgé de chaleur. Ce n'est pas si facile de devenir ce que l'on est, de retrouver sa nature profonde. Mais à regarder l'échine solide de chez moi, mon cœur se calmait d'une étrange certitude. J'apprenais à respirer, je m'intégrais et je m'accomplissais. Je gravissais l'un après l'autre les coteaux, dont chacun me réservait une récompense, comme ce temple dont les colonnes mesurent la course du temps. Bien pauvres sont ceux qui ont besoin de mythes. Ici, les dieux servent de lit ou de repère dans la course des journées. Je décris et je dis, voilà qui est rouge, voilà qui est bleu, voilà qui est vert. Ceci est la mer, la montagne, les fleurs. Et qu'ai-je donc besoin de parler de Dionysos pour dire que j'aime écraser les boules de lentisque sous mon nez? Est-il même à Déméter ce vieil hymne à quoi plus tard je songerai sans contrainte? Heureux, celui des vivants sur la terre qui a vu ces choses. Voir et voir sur terre, comment oublier la leçon? Ici même, je sais que jamais je ne m'approcherai ainsi du monde. Il me faut être nu et plongé dans la mer, encore tout parfumé des essences de la terre, laver celle-ci dans celle-là et nouer sur ma peau l'étreinte pour laquelle soupire lèvre à lèvre, depuis si longtemps, la terre et la mer. Voilà, c'était... Je comprends très bien que ce soit un texte qui vous est porté. Il y a là des relents d'enfance également. Hein.
Oui.
Alors, est-ce que tous les livres qui vous ont marqué, puisque nous avons bien entendu que Camus faisait partie de vos phares, comme aurait dit Baudelaire, hein, Camus et puis...
Oh, alors, ils sont tout à fait nombreux. Si je remonte le temps, ça va commencer, ce qui peut paraître maintenant pour des enfants de notre époque un peu farfelu et décalé, mais les malheurs de Sophie ont enchanté tout à fait mon enfance. Et, à tel point que, ce livre m'a toujours accompagnée. Et lorsque j'ai eu une fille, j'ai évidemment, voulu l'appeler Sophie parce que j'ai souhaité avoir une chipie qui fasse fondre ses poupées de cire au soleil, ce qui évidemment n'a pas été le cas. Mais Les Malheurs de Sophie, ça a été une terrible découverte pour moi, parce que ça a été la découverte du fait qu'un enfant pouvait faire des bêtises, ce qui était pas forcément le cas pour moi, parce que j'ai eu une éducation un peu sévère. Et le fait de découvrir dans un livre qu'une enfant, une fille, était capable comme ça d'être aussi chippie et aussi farouche, justement, ça a vraiment enchanté, ça m'a enchanté.
Alors, ça veut dire que vous avez découpé des poissons rouges en petites rondelles et mangé toutes les pattes de coin, petit morceau par petit morceau?
Jamais, justement, mais j'ai justement récupéré de ce désir en lisant ce livre. Voilà, je m'imaginais être Sophie et en fait en faire baver un peu à mon entourage, ce qui n'était pas le cas.
Dangereuse, je vous l'avais dit.
Donc c'est un livre qui vraiment m'a accompagné quelques années, oui. Je n'ai jamais oublié ce livre, à vrai dire.
Bon, on passe de Camus au Malheur de Sophie, c'est pas si mal que ça. Et puis ?
Alors après, bon, le temps a passé et j'ai évidemment, comme tout un chacun au lycée, étudié Balzac notamment. Et bon, je pense qu'on nous demandait d'étudier Balzac pas du tout à propos. Là, je ne nous le permettais pas, je ne comprenais strictement rien. Ça me rebutait, toutes ces descriptions. Et j'ai lu Balzac des années après, avec les conseils d'un ami qui était professeur de lettres. Et j'ai découvert Balzac. Et je les ai tous lus, donc je peux dire que Balzac a accompagné peut-être 4-5 ans de ma vie. Voilà. Bon, donc Balzac, et puis ensuite j'ai fait beaucoup de découvertes. Ce qui me trouble beaucoup, c'est que si je dois vous citer les auteurs que j'aime, je ne sais pourquoi, enfin, ils sont juifs. Je pense à Aaron Appelfeld notamment, je pense à Paul Auster et par-dessus tout à Isaac Bashevis-Singer. Passion m'a complètement transportée dans ce monde polonais, yiddish. Quelque part, ça m'habite. Voilà, alors j'ai l'explication. C'est difficile pour une lectrice d'expliquer ce qui lui plaît dans un livre, ce qui la transporte. Et moi, je pense que je suis souvent dans l'altérité et les lectures me nourrissent de la différence des autres et de l'altérité, donc.
Êtes comme vous êtes, donc on va peut-être écouter, quelque chose qui va nous rappeler quelques bribes de souvenirs comme ça.
Si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines que ça va, que ça va, que ça va durer toujours la saison, des à la saison, des à, saison des amours, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres. Si tu crois petite, si tu crois que ton teint de rose, ta taille de guêpe, tes mignons biceps, tes ongles d'émail, ta cuisse de nymphe et ton pied léger, si tu crois que ça va, ça va, que ça va, que ça va durer toujours ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres. Les beaux jours s'en vont, les beaux jours de fête, soleils et planètes tournent tous en rond. Mais toi, ma petite, tu marches tout droit vers ce que tu vois pas. Très sournois s'approche la ride véloce, la pesante graisse, le menton triplé, le muscle avachi. Allons, cueille, cueille les roses, roses de la vie, roses de la vie. Et que leurs pétales soient la mer étale de tous les bonheurs, de tous les bonheurs. Allons, cueille, cueille, si tu le fais pas, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres.
Et voilà, je suis comme je suis faite comme ça, disait Barbara. Donc, un seul. Moi, j'ai envie de vous pousser un petit peu là, parce qu'il me semble qu'il y a une profusion de livres pour cette construction. Donc, vous seriez une femme à facettes. Cela ne m'étonnerait pas outre mesure. Mais bon, s'il y avait un seul livre que vous emporteriez, je ne sais pas où, un seul livre, ça serait lequel ?
Eh bien, vous l'avez cité, Nos, évidemment.
Bien. Donc, aujourd'hui, la lectrice façonnée par ces mille et une lectures, comment vous choisissez vos livres ?
Alors, j'ai une façon un petit peu particulière de les choisir. Je fais un petit peu un rejet de tous les prix Goncourt, etc. Je suis incapable de les acheter tout de suite. J'achète... lorsque je le peux en librairie, le plus possible, je lis les premières pages, tout simplement, et je rentre assez vite dans un livre. Je ne sais pas comment je l'ai choisi, à vrai dire. Ce sont souvent des hasards. C'est une rencontre tout à fait hasardeuse. Et je dois dire que dans une vie de lectrice relativement dense, j'ai eu très peu de déceptions. Voilà. Ce que je regrette un petit peu maintenant, c'est que, évidemment, les librairies, il y en est de moins en moins. Et ce que je regrette profondément, c'est de ne plus pouvoir entrer dans une librairie et d'avoir un échange avec un libraire qui m'oriente. C'est de plus en plus difficile, ce que je comprends très bien d'ailleurs.
Alors Catherine, c'est de plus en plus difficile, mais la professionnelle du livre que je suis vous dirait, et nous l'avons vu ici hein, dans cette même émission, qu'il y a quand même de vrais libraires dans notre département. Nous avons la chance quand même d'avoir des libraires qui sont passionnés, passionnants et extrêmement sensibles à leur métier. C'est vrai que le monde de la librairie est un petit peu en difficulté. Enfin, quand même, il y a dans ce département, on a alors un petit peu de publicité, ça ne fait pas de mal. On a l'Arbousier à Oraison qui est quand même d'excellents conseils et très, très, très disponible. Il y a la Ruelle à Digne. Il y a, comment s'appelle-t-elle, à Fort-Calquier, la Carline. Il y a le Petit Pois, il y a le Pauvre d'Âne, il y en a quand même des libraires. Alors c'est vrai que lorsqu'on est un petit peu, on a passé un petit peu la cinquantaine quand même, bien même, le monde de la librairie n'est plus du tout le même. Il n'y a plus tous ces libraires qui, pour nous, ont été des passeurs. Mais enfin, je crois qu'on ne redira jamais assez combien la librairie est importante à notre spiritualité. Hein. Et effectivement, je regrette aussi que beaucoup trop d'achats se fassent par le biais d'Internet, simplement sur deux lignes qui sont des lignes commerciales, et qu'on oublie l'odeur et le sens. Enfin, vous l'avez très bien dit, hein, la façon dont on plonge dans un livre un petit peu à l'insu de son plein gré, presque on est absorbé et capté par l'ouvrage lui-même. Voilà, donc j'espère bien que vous continuerez à fréquenter les librairies, parce que les librairies ont besoin de public et qu'il faut vraiment, vraiment les défendre. C'était une parenthèse professionnelle, la minute de Madame Cyclopède, mais bon...
Je fréquente les librairies le plus possible. Et d'ailleurs, je dois dire que un des rêves de ma vie aurait été d'être libraire. Bon, ça n'a jamais pu se faire. Hein. Mais libraire, justement, passeur. Voilà. Je pense que dans la lecture, c'est un partage, la lecture. C'est un échange, mais profondément un partage. C'est l'amitié, c'est beaucoup de choses. Et je cite en exemple une amie qui me tient très à cœur, qui s'appelle Renée. Alors, je ne sais pas si René écoute, mais René me prête des livres magnifiques, m'a fait découvrir des auteurs Italo Calvino que je ne connaissais absolument pas. Elle a dépassé largement mon âge, ma chère René, mon amie. Et voilà ce qui est précieux dans la lecture. C'est cet échange qu'on peut faire entre lecteurs. On rentre dans les mêmes histoires. On est complice quelque part par le livre. Bien voilà, quand vous allez dans une librairie, quelquefois, c'est ce que vous souhaitez, oui. Oui, évidemment, acheter sur Internet, c'est très pratique, mais il n'y a pas cet échange. Et puis moi, j'ai besoin de toucher les livres. L'objet lui-même est important pour moi. Mais depuis, on parlait de l'enfance, j'ai eu, comme tout un chacun qui est à peu près de mon âge, la bibliothèque verte, la bibliothèque rouge et la bibliothèque rouge et or. Voilà. Et je ne peux pas me défaire de cet objet. J'ai du mal à passer sur un format, sur une tablette ou je ne peux pas. Je n'y arrive pas.
Ça veut dire que vous ne lisez pas du tout sur tablette, pas du tout.
Je n'y arrive pas. Je ne peux pas. J'ai essayé, oui, mais c'est quelque chose. Je ne peux pas. Alors, je dévoile un peu d'intimité. Moi, je lis couché. Voilà. Je ne peux pas lire assis. Je ne peux lire que couché. J'ai un territoire, c'est mon lit. C'est mon lit de lecture. Donc j'ai essayé, mais pour moi, ça n'est pas possible. J'ai besoin aussi que le livre vive. J'ai besoin qu'on voit qu'il a été lu, qu'il a été un peu malmené quelque part. Donc effectivement, quand vous allez dans une librairie, vous avez l'objet lui-même. Sur Internet, vous le voyez. Et c'est pratique, Internet, mais ça ne remplace évidemment pas la librairie et le libraire. J'en conviens complètement.
On va écouter un petit peu de musique pour passer du livre de lecture au lit de lecture, qui sont quand même deux âges de la vie de notre invitée, de Catherine.
Sans amour, sans amour,
sans amour, sans amour,
sans amour à venir,
sans amour, sans amour,
sans amour, sans amour,
sans amour, sans amour,
qu'est-ce que vivre veut dire?
Sans amour, sans amour,
j'ai le vide au cœur,
sans amour, sans amour,
le vide au cœur,
sans amour, sans amour, sans amour,
à quoi me sert?
Sans amour, sans amour,
de vivre encore,
sans amour, sans amour, sur les remblas.
Sans amour à venir,
sans amour, sans amour,
sans amour, sans amour,
sans amour, sans amour,
qu'est-ce que vivre veut dire?
Sans amour, sans amour,
je vis sans fleurs,
sans amour, sans amour,
je vis sans fleurs,
sans amour, sans amour,
les hommes pleurent,
sans amour, sans amour,
les femmes pleuvent,
sans amour, sans amour. Sans amour, sans amour.
Bien, alors la liaison était assez superbe entre le lit de Madame Chavanel et sans amour. Donc, pour ne pas sortir du thème, je vais vous dire Donia Flore et ses deux maris. Et vous me dites quoi?
Évidemment, là, vous m'avez vu venir. Alors, Donia Flore et ses deux maris, oui, j'aurais pu vous en parler aussi dans ces lectures qui m'ont marqué. J'ai habité très longtemps au Brésil et je lisais en portugais. Et j'ai lu en portugais Donia Flore et ses deux maris. Alors, voilà, ça rejoint un petit peu Noce de Camus, parce que là, on est vraiment dans la vie, dans la sensualité, dans la chaleur, dans le soleil. Donia Flore, elle est exquise. Elle se marie une première fois avec un voyou, on peut le dire, un coureur de jupons, qui meurt. Alors, elle est complètement désespérée, mais le temps passe et elle rencontre un pharmacien. Alors, je suis désolée pour les pharmaciens, mais celui-ci est particulièrement sinistre. Mais bon, Donia Flore a besoin aussi de confort, de sécurité, donc elle se marie avec cet homme. Et alors évidemment, on parle de lit et sans amour, mais Donia Flore au lit avec ce deuxième mari, c'est une véritable catastrophe. Et le premier, qui s'appelle Vaiginho, revient, c'est un fantôme, mais il occupe toutes les nuits de Donia Flore. Alors ça, c'est aussi un livre qui m'a beaucoup marqué, parce que là, j'ai dû le lire, j'avais 17 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est l'adolescence qui approche un peu de choses un peu défendues. Et je l'ai lu en plus dans une langue qui est savoureuse, hein, qui est le portugais, mais du Brésil, hein, qui est très difficilement traduisible. D'ailleurs, après, je l'ai lu en français, j'ai pas trouvé du tout le même plaisir. Voilà, donc je suis contente que vous me parliez de Donia Flore et ses deux maris.
Un peu de musique brésilienne pour faire le lien, parce que vous avez une façon de parler des livres qui nous met en désir, j'allais dire, qui nous appâte, là. C'est... Merci.
Canela já vai, e não é, e não é, e eu anauá, arara, galibi, surui, e ju, maio de jaca, imbe, poianauá, sarare, manuki, canela já vai, e não é, e não é, e eu anauá, arara, galibi, surui, e ju, maio canoê, último a ficar no rio Pomerê. Ninguém pra casar, por a canoê, só mais sua irmã. Tanto pra contar, ninguém pra dizer. Canoê tem que se esconder pra sobreviver. Precisa aceitar viver assim e ver se aproximar o ponto final sem poder lutar contra o silêncio.
Odile. Alors à l'écoute, je voyais Catherine qui ondulait de façon, voilà, c'est comme quoi, et qui me disait hors antenne que ce qui lui avait manqué dans la traduction du livre en français, c'était justement cela. Hein, donc du coup, ça amène pour moi une réflexion sur, Catherine, est-ce que vous lisez, je présume, beaucoup de littérature étrangère également? Donc la traduction est parfois un obstacle à une lecture que vous auriez dans d'autres langues ?
Alors pas dans toutes les langues, mais effectivement lorsque je lis des auteurs brésiliens par exemple, je peux être gênée par des traductions, oui. En revanche, quand j'ai lu, je ne lis plus maintenant, je lisais en anglais également, je lisais beaucoup Virginia Woolf, qui est un auteur dont je n'ai pas parlé, qui est un auteur que j'aime énormément. Je l'ai lu en anglais, mais cette langue anglaise m'est un petit peu difficile. Je la parle, mais elle ne parle pas à mon oreille. Et du coup, j'ai aimé lire Virginia Woolf en français. J'ai trouvé Virginia Woolf, l'auteur, l'écrivain, la femme, en français, alors que j'avais beaucoup d'hésitations en anglais. Oui, donc en ce qui concerne les langues latines, je préfère éventuellement lire en espagnol ou en portugais, mais l'anglais, je préfère le lire en français. J'ai plus de difficultés à lire l'anglais. Oui.
C'est amusant, oui. Comme quoi le rythme, oui, est hyper important.
Tout
dans,
à fait.
Dans la lecture.
Oui.
Finalement, on oralise quand même beaucoup encore. Hein, en
absolument.
Depuis le début de cette rencontre, Catherine, vous parlez, j'ai l'impression, beaucoup plus de femmes que d'hommes. Est-ce que pour vous, les héroïnes seraient plus importantes que les héros?
Alors écoutez, à votre invitation, j'ai essayé de récapituler ces années de lecture et curieusement, je n'y avais jamais pensé. Mais il me semble que dans toutes les découvertes que j'ai faites en littérature, eh bien, ce sont ces images de femmes fortes, faibles, désespérées, heureuses, fortes, très très souvent, qui m'ont plus marquée. Voilà. Donc, alors, on va dire que peut-être que je suis effectivement plus sensible aux héroïnes. Oui, peut-être.
Alors, je vais vous demander de me parler du livre que j'ai en main et dont je vais lire un petit extrait pour le présenter à nos auditeurs.
Tout à l'heure, je vous parlais de René. C'est René qui m'a prêté ce livre la semaine dernière. C'est une biographie que je n'ai pas lue encore. J'ai simplement commencé à la lire. Elle parle d'une femme dont je ne connais absolument pas l'histoire, mais qui manifestement était de toutes les luttes ouvrières après, je pense, la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelait Lucie Beau. Et j'ai trouvé, justement, en commençant ce livre, un passage et en ayant cette réflexion sur le plaisir que j'avais à la découverte de ces femmes en littérature, je trouve qu'elle donne une belle définition de ce qu'est une héroïne.
Alors, nous allons lire la définition, justement. Donc, c'est un livre qui est paru chez Grasset, qui s'appelle « Mélancolie ouvrière », donc Michel Perrault. Au fond, qu'est-ce qu'une héroïne? Sur le moment, je n'ai pas tellement cherché à le préciser. Pourtant, la question se pose. Héroïne. Est-ce seulement le féminin de héros? Ces héros de l'histoire de France célébrés par de récentes expositions et dont Christian Amalvi ou Alain Corbin ont précisé la stature. De grands hommes, en somme, dignes du Panthéon. mâle monument d'où les femmes sont absentes, excepté Madame Berthelot qui accompagnait son mari, célèbre scientifique décédé en même temps qu'elle, et Marie Curie dont on a si longtemps contesté qu'elle fut la créatrice de son œuvre. Mais qu'est-ce qu'une grande femme ? La notion paraît presque incongrue, une femme étant toujours petite par définition. Question de musculature, de squelette et de cerveau, de fonction et de genre. Il lui faut pour exister une part de virilité, comme celle que Victor Hugo reconnut à George Sand lors de ses obsèques. L'héroïsme féminin est le plus souvent un décalque, un peu estompé, une extension des vertus guerrières et des rudes combats. Ou alors une forme de sainteté, marquée par le sacrifice et la solitude, les armes des femmes vouées à la passivité et au renoncement. Le dictionnaire Robert définit l'héroïne « femme d'un grand courage » qui fait preuve par sa conduite, en des circonstances exceptionnelles, d'une force d'âme au-dessus du commun. Et dans ce glissement de l'exploit au courage, du corps à l'âme, dans l'invocation de l'exception et de la distinction, se lie la difficulté de cerner la spécificité de l'héroïsme féminin. Un héros accomplit l'idéal de la vertu virile. Une héroïne déroge à l'ordre traditionnel des sexes. Bien, je vois que vous avez annoncé la couleur. Oui, bien. Alors maintenant, question subtile. Votre coup de cœur, Catherine, en ces temps tourmentés.
Alors écoutez, des coups de cœur, j'en ai de façon régulière. En règle générale, mon dernier coup de cœur est le dernier livre que j'ai lu. Donc c'est pas très compliqué. Très souvent, ça arrive, j'ai des coups de cœur et j'ai beaucoup de mal à fermer mon coup de cœur. Et je vais pas là tout de suite vous parler de mon dernier coup de cœur, mais je voulais vous parler d'un livre qui s'appelle Les fils d'Abraham de Marek Alter, que j'ai lu il y a des années, mais qui m'a laissé un souvenir, non pas de l'histoire elle-même, mais de cette difficulté que j'ai eue à poser ce livre. Voilà, les dernières pages, j'ai dû les lire en 3 semaines. Je lisais presque phrase à phrase pour ne pas avoir à quitter cette histoire qui traverse le temps du Moyen-Âge au ghetto de Varsovie. Voilà, c'est les difficultés quelquefois qu'un lecteur peut avoir à quitter une histoire qui l'emmène ailleurs, dans un autre monde de choses un peu incertaines, avec cette angoisse de ne pas retrouver une histoire de la même valeur qui le transporte autant. Voilà.
Plus que de la même valeur, qui inclut effectivement un jugement de valeur, de la même complicité et complétude entre l'auteur et entre le livre et le lecteur.
C'est ça, oui, vous le dites beaucoup mieux que moi.
Certes.
Oui, tout à fait. Et mon dernier coup de cœur s'appelle « Pas pleurer » de Lydie Salvert. C'est un livre qui je me suis retrouvée en fait au cœur complet de l'Espagne franquiste de 1936. Alors la narration est très curieuse. Il y a deux intervenants dans ce livre. Il y a la mère qui est espagnole, hein, en 1936, qui est plutôt une femme de gauche engagée dans une famille relativement pauvre, avec un frère qui est vraiment militant républicain et qui se trouve confronté donc à un village où le franquisme monte de plus en plus. Et c'est la mère qui raconte à sa fille, 75 ans après, ce qu'a été cette période pour elle. Mais la voix de cette mère est entrecoupée de celle de Georges Bernanos, qui, comme chacun le sait, était un écrivain quand même assez conservateur, et qui découvre, lui aussi, les horreurs qu'amène le franquisme protégé par l'Église. On sait que Georges Bernanos était un catholique pratiquant. Et donc, c'est cette découverte de Georges Bernanos face à ces horreurs, mêlée à la voix de cette femme qui raconte cette période à sa fille, laquelle mère ne parle pas très bien français non plus, donc mélange des mots de français, d'espagnol. Je trouve que c'est quand même d'une violence extrême. C'est un style qui n'est pas très commun, hein, assez contemporain quand même. Et je trouve que les deux voix comme ça, de Georges Bernanos, qu'on n'attend quand même pas du tout dans cette histoire, hein, ben ça se complète parfaitement bien. Et là, il y a là un mélange de tendresse, de fragilité et d'une violence extraordinaire. Et il y a des passages qui m'ont vraiment bouleversée. Voilà, cette femme, la mère de l'héroïne, m'a vraiment bouleversée. Donc c'est mon dernier coup de cœur, mais c'est aussi pratiquement le dernier livre que j'ai lu, comme je vous le disais. Donc la suite au prochain numéro, prochain coup de cœur.
J'aime beaucoup cette idée que chaque livre lu est pour vous un coup de cœur. Je trouve ça absolument extraordinaire. Donc avant que je ne vous lise un petit extrait de ce livre-là, on va peut-être faire une petite pause musicale.
Sozinho nessas noites de agora, levo sempre comigo um resto de alegria. Não ando sozinho nessas noites de agora, levo sempre comigo um resto de alegria. Um sorriso de urgência pra algum rosto estranho que me passe. Vou por aí à toa, me perguntando, inventando respostas. Outras vezes levo a solidão pra passear num parque pra lhe mostrar a multidão e a solidão dos outros encontrar. Depois volto.
Alors, juste un petit extrait. Bientôt, elle abandonna le landau devenu trop encombrant et fit d'un drap noué autour de ses épaules un berceau pour Lunita, qui devint comme une partie d'elle-même. C'est ainsi qu'elle avança, plus forte et plus libre, maintenant qu'elle portait sa fillette contre son corps. Elle eut faim, elle eut froid, elle eut mal dans les jambes et dans tout le corps. Elle dormit sans dormir, tous ses sens en alerte, sa veste repliée en guise d'oreiller. Elle dormit à même le sol, sur un lit de branches, dans des granges abandonnées, dans des écoles désertes et glacées. Les femmes et les enfants tellement entassés les uns contre les autres qu'il était impossible de bouger un bras sans se heurter à l'autre. Elle dormit, enveloppée dans une mince couverture marron qui laissait pénétrer l'humidité du sol. Cette couverture, tu la connais, c'est la couverture du repassage. La petite fille serrée contre sa poitrine, les deux jointes comme un seul corps et comme une seule âme. Sans Lunita, je ne sais pas si j'aurais continué. Elle fut, malgré sa jeunesse, dans une fatigue sans nom, mais elle continua chaque jour à mettre un pied devant l'autre. Adelante, l'esprit uniquement occupé à trouver les moyens de survivre. Se jetant à terre ou dans un fossé dès qu'apparaissaient les avions fascistes, le visage écrasé sur le sol et son enfant contre elle, terrifiée de peur et suffocante à force de pleurer, son enfant à qui elle murmurait « Ne pleure pas, ma chérie, ne pleure pas, mon poussin, ne pleure pas, mon trésor », se demandant en se relevant couverte de terre si elle avait eu raison de faire subir cet apocalypse à sa fillette. Mais ma mère avait 17 ans et le désir de vivre. Elle marcha donc pendant des jours et des jours, son enfant sur le dos, vers un horizon qui lui semblait meilleur de l'autre côté de la montagne. Elle marcha pendant des jours et des jours dans un paysage de décombres et atteignit la frontière du Pertus le 23 février 1939. Elle resta 15 jours dans le camp de concentration d'Argelès-sur-Mer, dans les conditions que l'on sait, puis fut dirigée vers le camp d'internement de Mozac, où elle retrouva Diego, mon père. Vous nous dites où se situe ce passage dans le livre, Catherine ?
Oui, c'est tout à fait à la fin. Elle quitte l'Espagne, elle fuit la guerre, hein. elle fuit la terreur, et elle arrive justement avec sa toute petite fille. Et finalement, l'histoire qui commence bien avant, commence là, hein, parce que c'est la vie de cette maman à l'âge de 17 ans se termine là, mais commence dans un autre pays. Alors ce que j'ai aimé, c'est ces voix entremêlées comme ça qui nous parlent en fait de la guerre, de la terreur et de l'incompréhension, chacun à sa manière. Et la mère et Bernanos parlent d'une sorte d'incompréhension de la guerre. Et j'ai trouvé que dans notre avenir qui est quand même un petit peu incertain, ce livre était aussi donné matière à réflexion. Voilà.
Alors ce livre est aussi un livre de transmission, n'est-ce pas ? Et moi, j'ai envie de vous dire, la lectrice que vous êtes, façonnée de la sorte par des dizaines et des dizaines de livres aimés, hein, si j'ai bien entendu, par indiscrétion, je sais que vous êtes grand-mère, une grand-mère extrêmement attentive. Et puis dans les livres que vous nous avez apportés, oui, au milieu de « Pas pleurer », au milieu de « Mélancolie ouvrière », posée au-dessus d'Adichie, je trouve « Pétronille » et ses 120 petits. Alors, oui, vous me dites un petit peu comment vous faites passer, si vous avez envie de faire passer d'ailleurs, et comment réagissent ces petits-enfants à la lecture dans ce monde qui est le vôtre de livres, parce que je suppose que chez vous, il y a des livres à peu près partout.
Oui, il y a quelques livres, effectivement. Alors, comment je fais passer? J'ai évidemment, enfin, pour moi, c'est un grand bonheur, d'être grand-mère, parce que justement, là, on parle de transmission, et que, en tant que femme et en tant que lectrice, je suis très attachée à la transmission. J'ai déjà beaucoup, je pense, transmis à mes enfants, qui ont été accompagnés de lecture tout au long de leur vie. Et puis maintenant, je transmets effectivement le goût de la lecture à mes petits-enfants. Je le fais en leur achetant des livres. Et je leur ai acheté des livres pratiquement depuis leur naissance, je dois dire. Et il y a un moment qui est tout à fait rituel dans notre relation lorsque les petits sont à la maison, c'est l'histoire du soir. Je leur fais choisir leurs histoires dans la mesure du possible. Je les emmène dans les librairies dont on parlait tout à l'heure. Maintenant, ils sont un petit peu plus grands, donc ils choisissent eux-mêmes leurs livres. Ils ont des personnalités très différentes. Je parle surtout de mes deux petites filles qui sont plus grandes. Et l'une est peut-être un petit peu classique dans ses goûts, mais j'ai une des deux petites filles qui est un petit peu fantasque. Et je vous ai amené Pétronille de Carlo Ponti parce que c'est un livre d'enfant qui, on peut le dire, complètement déjanté, je crois. Donc je transmets aussi en ne leur imposant rien. Voilà, elles choisissent leurs livres, elles choisissent leurs histoires. Si on doit raconter toute la semaine la même histoire, c'est pas très important. On raconte Pétronille, écoutez, sans exagérer, j'ai dû déjà le lire 1000 fois peut-être. Je le connais pratiquement par cœur en faisant les gestes, etc. Parce que dans la lecture pour les enfants, il y a aussi les gestes que l'on peut faire qui sont très importants. Voilà, donc je crois qu'elles ont déjà le goût du livre en tous les cas, oui. Je l'espère.
Mais qui c'est Pétronille, madame ?
Pétronille à 120 petits, c'est une grande souris qui a 120 petits. Donc vous imaginez donner à manger à ces 120 petits, 120 sucettes, 120 grains de riz, etc. Je trouve que c'est, en plus, j'aime beaucoup Carlo Ponti. C'est une amie aussi qui m'a fait découvrir Carlo Ponti, avec laquelle j'étais allée au Salon du Livre à Paris, et je ne connaissais absolument pas Carlo Ponti, c'est cette amie qui me l'a fait découvrir.
Comme quoi, on est tous le passeur de quelqu'un. Alors, Pétronille, elle rencontre une petite fille qui est en train de lire dans sa forêt bibliothèque. Elle s'appelle Adèle et elle n'a rien vu. Pétronille, alors je vous rappelle que Pétronille cherche à manger pour ses enfants quand même, hein. Elle passe. Alors là, elle est perdue, mais perdue plus que perdue. Elle pense qu'elle est au moins ailleurs. Et puis, il y a encore quelqu'un qui pleure, parce que quand même, on est dans le monde vivant, hein. et il y a encore quelqu'un qui pleure. Et cette fois, savez-vous, qui pleure, c'est une Madeleine. Mais quand même, c'est difficile à consoler une Madeleine. Hein. Et puis toutes ces larmes, ça fait une mare. Une mare, ça fait un lac, une mer, un océan, un super océan gênant. C'est gênant. Alors Petroni lance le petit caillou offert par trois petites pierres. Le caillou se met à pousser dans l'eau, juste à temps pour Petroni qui ne sait pas nager. Et la Madeleine qui continue à pleurer, à pleurer, à pleurer malgré les câlins. Alors Petroni essaie un bisou antique chagrin et la Madeleine éclate en 8 morceaux. Donc on a là plein de choses pour les petits, pour faire passer des messages d'amour et de, et de, et de, et de je ne sais pas quoi d'ailleurs. Donc les petites filles lisent Petroni, les petits garçons lisent quoi ?
Alors j'ai moins d'expérience, je dois dire, avec les petits garçons. C'est un, ça rejoint peut-être ce goût que j'ai de l'héroïne. Hein. Oui. J'ai plus de difficultés avec avec le petit garçon. La relation de lecture est plus facile avec les petites filles, à vrai dire. Voilà, je peux moins vous en parler. C'est plus difficile pour moi. Oui.
Bah, ils grandiront et puis les choses changeront probablement.
Certainement.
C'est vrai que vous avez l'air d'évoluer dans cette dans cet imaginaire féminin absolument absolument partout quoi. Les petites filles, les héroïnes, les voilà. Vous faites la cuisine, Catherine ?
Oh là, vous me chatouillez sur ça, sur un sujet un peu délicat. Oui, je dois dire que non, je ne fais pas la cuisine du tout. J'ai la chance d'avoir dans ma vie, un homme qui l'a fait parfaitement bien. Alors, c'est quand même antinomique tout ça parce que j'aime la sensualité, j'aime le plaisir, j'ai le goût de cette lecture, je suis assez passionnée. Mais curieusement, je dois être une fausse passionnée parce qu'on me dit que il n'y a que les cuisinières qui soient de vraies passionnées.
Alors
voilà.
Alors ça, je voudrais bien savoir où on est allé chercher pareille chose. Non, c'était pour boucler, pour boucler de façon un petit peu perfide, je le reconnais, avec ce que je disais en préambule, c'est-à-dire que la femme, elle brode, elle prie, elle cuisine, elle voilà. Et vous m'avez l'air d'être une un petit peu révolutionnaire, qui forme un petit peu des révolutionnaires, parce que vos petites filles ne vont pas être peut-être de merveilleuses cuisinières, mais elles auront la passion du livre, je le pense, je le crains, je crois. Qu'est-ce que vous aimeriez dire là maintenant, au terme presque de cette émission, par rapport dire à sur cette passion, je dirais, parce qu'on a l'impression que ça vous habite. Et voilà, c'est quoi une lectrice aujourd'hui ?
Alors, c'est difficile de dire ce qu'est une lectrice. Aujourd'hui, moi, je peux dire ce que je suis, mais je ne peux pas parler pour toutes les lectrices.
Qu'est-ce qui encore heureux. Enfin,
oui,
il manquerait
plus évidemment. ce qui m'habite, c'est très difficile de le dire. Je ne peux pas concevoir ma vie sans lecture. Alors, on peut penser que je vis au travers d'histoires. Je le sens pas comme ça du tout. Je sens plutôt ça comme une ouverture aux autres quelque part. Et puis vraiment ce goût du partage de ces lectures, parce que je n'ai jamais envie de les garder pour moi toute seule, ces lectures. J'ai vraiment envie de les faire partager. Et j'ai découvert très récemment, donc, cette amie dont je parlais, que je connais depuis longtemps, mais nous échangeons des livres depuis fort peu de temps, et je trouve beaucoup de bonheur à cet échange. Et alors je dois dire, qu'est-ce que c'est qu'une lectrice? C'est aussi peut-être quelqu'un qui a du mal à se séparer de ses livres. Eh bien, c'est un chemin, ça. Je commence à les abandonner, mes livres. J'en laisse dans le train quand je prends le train. J'en donne. Je ne veux pas qu'on me les rende. C'est aussi une façon de se dépouiller, peut-être d'aller à l'essentiel. C'est peut-être aussi ça, la lecture. C'est peut-être d'aller à l'essentiel. Je le dirais comme ça, en tous les cas. Je le vois comme ça.
Bien. Alors, dans ce monde de turbulence quand même, hein, dans des instants qui sont de souffrance aussi. Hein, je crois que vous avez choisi pour clore notre propos et nos échanges un texte. Alors un texte qui est un texte de Lucien Jacques. Dans tout ce que vous nous avez raconté, moi j'entends une immense joie de vivre aussi, hein, qui Alors, est-ce que c'est la lecture qui permet de dépasser la souffrance de l'instant ? Est-ce que les lectures permettent de se situer dans le monde et de comprendre justement la souffrance des instants ? Je ne sais pas. Enfin, là, je touche un petit point d'émotion parce que je trouve que les jours d'aujourd'hui, comme aurait dit ma grand-mère, sont des jours difficiles et dans lesquels on a à la fois besoin de l'autre pour trouver un repère, hein, comme disait Lévinas, mettre un peu de l'autre dans notre regard. Et je vais vous lire ce sur quoi Catherine a souhaité que nous clôturions cette rencontre. Donc je l'ai dit, c'est un texte de Lucien Jacques. « Je crois en l'homme, cette ordure. Je crois en l'homme, ce fumier. » Ce sable mouvant, cette eau morte, je crois en l'homme, ce tordu, cette vessie de vanité. Je crois en l'homme, cette pommade, ce grelot, cette plume au vent, ce boute-feu, ce fouille-merde. Je crois en l'homme, ce lèche-sang. Malgré tout ce qu'il a pu faire de mortel et d'irréparable, je crois en lui, pour la sûreté de sa main, pour son goût de la liberté, pour le jeu de sa fantaisie, pour son vertige devant l'étoile. Je crois en lui pour le sel de son amitié, pour l'eau de ses yeux, pour son rire, pour son élan et ses faiblesses. Je crois à tout jamais en lui pour une main qui s'est tendue, pour un regard qui s'est offert. Et puis surtout et avant tout, pour le simple accueil d'un berger.
Bastaria um só segundo e teu olhar não veria quantos caminhos cruzados precisaram ser traçados para resultar nesse instante. Acaso sorte ou destino, sorte ou destino, seria aventura sim, foi bálsamo ou maldição. As horas passam insanas, refazendo nossos planos numa outra direção. Acaso sorte ou ilusão? Sorte ou ilusão? Emaranhado de gestos que tornam realidade o inusitado do tempo e dão sentido e verdade a toda a vida vivida entre viagens e encontros, inusitadas rotinas que nos trouxeram até aqui. Acaso uma ironia, uma ironia que faço agora, te abraço, inconsequente desejo, quantas vidas mudaremos no doce gesto de um beijo. Quantas pátrias salvaremos com tanto amor e desejo? Acaso sorte ou destino? Sorte ou destino? Acaso sorte ou ilusão? Thank you. acaso, sorte ou destino.
Eh bien, Catherine, un immense merci pour nous avoir fait partager cette passion. À très bientôt dans une librairie. En faisant tomber un livre, nous saurons que c'est un coup de cœur, un coup de cœur de Catherine Chavanel. Et nous allons nous quitter avec Camus. Hein, on ne pouvait pas faire moins. Et puis avec la satisfaction du travail bien fait. Vers le soir, je regagnais une partie du parc plus ordonnée, arrangée en jardin, au bord de la route nationale. Au sortir du tumulte des parfums et du soleil, dans l'air maintenant rafraîchi par le soir, l'esprit s'y calmait. Le corps détendu goûtait le silence intérieur qui naît de l'amour satisfait. Je m'étais assis sur un banc. Je regardais la campagne s'arrondir avec le jour. J'étais repu. Au-dessus de moi, un grenadier laissait pendre les boutons de ses fleurs, clos et côtelés comme de petits poings fermés qui contiendraient tout l'espoir du printemps. Il y avait du romarin derrière moi et j'en percevais seulement le parfum d'alcool. Des collines s'encadraient entre les arbres et plus loin encore, un liseré de mer au-dessus duquel le ciel, comme une voile en panne, reposait de toute sa tendresse. J'avais au cœur une joie étrange, celle-là même qui naît d'une conscience tranquille. Il y a un sentiment que connaissent les acteurs lorsqu'ils ont conscience d'avoir bien rempli leur rôle, c'est-à-dire, au sens le plus précis, d'avoir fait coïncider leurs gestes et ceux du personnage idéal qu'ils incarnent, d'être entrés en quelque sorte dans un dessin fait à l'avance et qu'ils ont d'un coup fait vivre et battre avec leur propre cœur. C'est précisément cela que je ressentais. J'avais bien joué mon rôle, j'avais fait mon métier d'homme, et d'avoir connu la joie tout un long jour ne me semblait pas une réussite exceptionnelle, mais l'accomplissement ému d'une condition qui, en certaines circonstances, nous fait un devoir d'être heureux. Nous retrouvons alors une solitude, mais cette fois dans la satisfaction. C'est une belle façon de clore cette émission. Donc, dans le Jardin des mots, remercie Catherine Chavanel pour sa présence, remercie Odile Frison pour sa prestance, et je vous dis au mois prochain. Bonne soirée. Thank you.